Dans un premier temps, les différentes intervenantes, vous avez des réactions comme ça, un peu à chaud, à l'écoute des autres prises de parole, je ne sais pas, de mise en regard entre les différents outils numériques.
J'ai d'abord une question justement pour Marie, parce que de ce que tu racontes, effectivement, tu t'adresses à un public large, mais vous cherchez aussi un public très spécifique parmi ces gens qui ne peuvent pas se déplacer à une salle de théâtre, enfin voilà, qu'ils peuvent pas se déplacer, mais qui ont des soucis pour se déplacer. Et donc, ma question, c'est, puisque vous n'avez pas de soutien institutionnel a priori, donc vous le faites tout vous-même. Comment vous faites pour vous approcher de cette personne-là? C'est-à-dire, quels sont vos outils de communication ou de diffusion ou de vous faire repérer par ces gens-là? Aussi bien, puisque vous êtes finalement dans les réseaux ou sur Internet, les gens, ils y arrivent d'eux-mêmes. C'est comment cette démarche de médiation?
On travaille sur plusieurs aspects parce que, comme évidemment, on veut vraiment penser nos pièces autant pour un public, comme on dit, qui a besoin d'accommodation ou de ça, et un public plus large dont le sujet de ce X spectacle-là intéresserait. Parce que malheureusement, souvent, c'est un ou l'autre, vraiment, on veut penser aux deux. Donc, on travaille autant dans un point de vue d'aller chercher, bon, pub Facebook, communiqué de presse, on a la chance d'avoir eu beaucoup de presse et d'entrevues, tout ça dans les médias ici au Québec. Et bon, les billboards, autres publicités plus traditionnelles. Et on travaille aussi en collaboration avec des organismes spécialisés pour des gens auprès en situation de divers handicaps ou aussi en santé mentale pour assurer que les gens qui sont autour de ces réseaux-là puissent au moins avoir l'information. On essaye aussi, on travaille là, justement pour se créer des contacts, des réseaux. Tout ça, c'est un travail honnêtement long et t'sais, étape par étape, mais on essaye justement d'aller chercher les deux milieux pour pouvoir trouver justement une forme qui soit communautaire et qui englobe tout le monde.
Et du coup, est-ce que parmi cette recherche de public, tu ressens que justement, au-delà de que ça, vous donnez cette opportunité à ces gens-là éloignés de voir des pièces de théâtre, que du coup, est-ce qu'il y a des différences dans l'intérêt qu'ils montrent par rapport à un public plus habitué au théâtre, que du coup, ils pourraient avoir des réticences par rapport à ce format-là? Ou non, c'est pareil, les gens, ils en ont peur en général et du coup, peu importe comment ça fonctionne. C'est aussi une question qui est sortie à des moments aussi sur effectivement cette réticence que parfois il peut avoir certaines personnes à voir un spectacle dans un milieu comme ça. Et donc, est-ce que c'est différent? Ils sont preneuses et preneurs dans tous les cas ou les réticences sont les mêmes?
C'est différent. Je vais être franche que dans notre travail, énormément de notre travail est de l'éducation. Encore une fois, je parle pour ici surtout. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ça, du théâtre au téléphone, du théâtre web, ont peur, ils ne savent pas, surtout quand il y a de l'implication, ils ont peur d'être mis on the spot, d'être humiliés, d'être ça. Donc, nous, comment on travaille personnellement, les gens reçoivent un guide clair, étape par étape, de à quoi s'attendre. Avec des images, tout ça, pour assurer qu'il n'y ait pas d'anxiété reliée, qu'on puisse les aider. On fait des appels téléphoniques avec les gens qui veulent avoir d'avance plus d'informations. On travaille beaucoup sur la partie rassurée. Je ne vais pas mentir que est-ce qu'on manque certains spectateurs ou on a encore du travail à faire sur comment atteindre certaines personnes parce qu'ils ont peur Internet, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre? Oui. Et ça va être un travail où à chaque pièce qu'on fait, on découvre des nouveaux moyens d'atteindre des gens, de les faire comprendre comment ça fonctionne. Mais de plus en plus, la pandémie a fait qu'il y a des gens qui ont quand même moins peur, entre guillemets, de voir des choses, qui comprennent un peu plus, qui peuvent avoir accès à de la culture, que ça peut être intéressant, que ça peut être adapté. Donc, je dirais que ce genre de format-là, par exemple, on ne peut pas sous-estimer le travail en amont d'éducation, de rassurer les gens et de montrer là, beaucoup d'étapes par étapes.
Merci.
Merci.
Moi, j'avais une question pour Marie aussi. Concernant, si j'ai bien compris, c'est une plateforme qui s'appelle Clémentine, c'est ça? Oui. J'ai une question technique, en fait. C'est quelque chose que vous avez développé spécifiquement, vous?
Oui, ouais. Mais pour moi personnellement.
Oui, mais la compagnie, ouais, ou quelqu'un.
Exactement, oui, c'est exactement. C'est l'artiste Pierre Tremblay-Thériault qui l'a construit pour ce projet-là spécifiquement, pour moi. Exactement, pour regarder. Mais on s'est aperçu à quel point c'était changeable, à quel point on peut changer autant l'esthétique que les fonctionnalités. Et ouais. On s'entend que la plateforme utilise YouTube pour un feed. On prend des programmes comme StreamYard. Il y a plusieurs programmes en arrière pour tenir la régie, pour que la musique puisse jouer, pour que tout ça. Mais c'est une plateforme faite et qu'on est en train de travailler, de rendre accessible. Pierre est en train de rendre ça accessible à d'autres compagnies parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel pour théâtre, mais aussi pour d'autres choses comme une conférence avec un autre chat, mais un chat peut-être. On peut mettre des images qu'on n'a pas vues. On peut mettre la vidéo. Il y a plein de possibilités pour rendre ça, surtout avec un principe de billet, plus facile que d'autres façons de faire en ce moment présentement accessible.
Oui, ben oui, on en parlait ce matin des aspects techniques qui seraient particuliers aux problématiques des représentations, donc c'est intéressant.
Exactement, ouais, exactement. Il y a tellement de possibilités et de façons qu'on pense vraiment spécifiques au théâtre ou à des projets en particulier.
Oui, d'accord, d'accord.
Moi, je rallume mon micro parce qu'une des questions qui a été posée et à laquelle a répondu Marie, je pense qu'elle peut s'adresser en fait à toutes les interventions de la journée, mais je vais me contenter déjà des personnes qui sont intervenues dans cette deuxième partie de session, c'est comment sont contactés les publics, comment sur les diverses modalités qui nous ont été présentées dans cette deuxième partie d'après-midi, je voulais vous poser la question de voilà, comment sont contactés ces publics potentiels, puisque la plupart du temps, ce ne sont pas les mêmes biais, les mêmes canaux que les canaux ordinaires de vente de billets, notamment. Et j'en profite pour compléter ma question, puisque je viens de parler de vente de billets. Il y a un point qui n'a pas été abordé, c'est la rémunération de ces spectacles. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Et comment se fait le paiement, etc. Alors, je suis très pragmatique, mais enfin, voilà, en termes d'accessibilité, c'est aussi une question qui se pose.
Ben, je peux laisser les autres répondre, mais juste pour répondre à la deuxième partie de la phrase, pour nous, c'était payant. C'était un billet, en réalité, sur notre site web, accessible parce qu'on est avec Squarespace, donc on avait une billetterie. Et en réalité, j'avais avec Zapier, qui est un programme là, d'automation, ça leur envoyait directement aux spectateurs les informations sur le spectacle et leur numéro spécifique de billet. Qui, après ça, quand ils rentraient, qui était ouvert, leur billet était ouvert spécifiquement pour une plage de 3 heures à la présentation du spectacle. Spécifique pour eux. Puis après, ils n'avaient plus accès à la plateforme. Fait que c'est la façon de faire. Puis les acteurs ont été payés. On a eu la chance d'avoir des subventions parce que c'était pas assez. Vu qu'on fait du théâtre éthique, souvent, c'est peu de spectateurs, 30, payaient pas tout le monde. Donc, bref, pour nous, ça a été comme ça.
Et en tout cas, moi, je dirais aussi pour ce qui est de YouTube, c'est que très souvent, les compagnies et les théâtres ont utilisé leur liste de diffusion par mail, tout simplement, pour contacter leurs abonnés, les prévenir qu'il y aurait des diffusions sur YouTube et que dans ce contexte-là, la Comédie française a été particulièrement privilégiée puisqu'ils ont aussi bénéficié d'une médiatisation par la télévision et que leur spectacle était annoncé sur OJT, etc. et donc rencontrait de ce fait un grand nombre de spectateurs.
Et ça signifie aussi que, alors je sais que la Comédie française a contacté, alors j'imagine pas seulement nous à l'université dans notre département, j'imagine bien d'autres, mais ça a été le cas, enfin, on relaie aussi ce type d'informations, vous avez évoqué aussi les conférences, en passant par les listes de diffusion, ça veut dire que, sauf après par bouche à oreille, et après tout, ça fonctionne encore, à partir du moment où on n'est plus confiné vraiment dans les appartements et les maisons, mais qu'il n'y a pas cette volonté d'aller au-delà au départ de la liste de diffusion.
Oui, pardon. Je veux dire absolument, effectivement, c'est une des limites, en tout cas, de la diffusion sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de phishing, c'est-à-dire de recherche d'élargissement du public.
Et pour ma part, en fait, c'était des spectacles affichés comme tout autre spectacle sur le site des théâtres. Et c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée par ailleurs, c'est que donc c'était des billets parfois dont on pouvait choisir le prix, donc 5, 10 ou 15 euros au choix. Et puis oui, un autre point, c'est que je m'attendais en fait à ce que ce soit les grands théâtres en Allemagne qui ont encore des troupes permanentes, etc., qui offrent cela. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les formes les plus interactives qui m'ont le plus marqué, personnellement en tout cas, c'est des théâtres pour la scène libre. Donc en fait, pour des compagnies qui ne sont pas subventionnées autrement qu'en France, qui donc ont pris le risque d'élaborer ces formes sans savoir parfois si des théâtres seraient preneurs. Et oui, je trouvais que c'était intéressant justement ces problématiques de la marge. C'est justement les lieux les moins sécures sur le plan financier qui ont pris le plus de risques en fait. Et qui ont aussi développé souvent d'autres formes, des débats auxquels les spectateurs pouvaient participer aussi, enfin d'autres formes que des formes spectaculaires à proprement parler.
Je crois que Armelle voulait poser une question.
Oui, vous m'entendez? Oui, moi je voulais rebondir sur l'intervention qui m'a beaucoup intéressée sur YouTube et j'avais deux séries de questions, réflexions. C'est d'abord... qu'est-ce qu'on fait la distinction entre captation et streaming live, le direct et le différé? Est-ce que dans ce contexte-là, il y a vraiment un effet de direct quand c'est en direct ou c'est tellement pris dans l'expérience télévisuelle qu'on a quand même l'impression que c'est en différé? Et comment on fait pour lutter contre cette impression? Par quel dispositif? Et puis, quel sort on réserve aussi dans l'analyse au chat? Moi, ça m'a beaucoup intéressé de regarder un petit peu vivre ce public des chaînes YouTube, parce que mine de rien, c'est un public très très différent du théâtre, et en même temps, ça nous permet aussi de voir ce qui se passe dans la tête du public, ce qui n'est pas forcément possible quand on va au théâtre. Et voilà, sur la chaîne YouTube de la Comédie française, il y avait une sociabilité tout à fait distinguée avec un fan club qui connaissait les très anciens spectacles, qui pouvait se référer à tel spectacle des années 60 ou 70. Enfin, voilà, il y avait des gens qui avaient vraiment un savoir à faire valoir, parfois pendant même que les spectacles étaient diffusés. Donc, il y avait une espèce de bruit concomitant, simultané de la représentation, même si pour la Comédie française, c'était toujours du différé. Et à l'inverse, je me rappelle avoir gardé, alors ça, pour le coup, c'était vraiment du streaming live, un spectacle de David Lescaut, donc Théâtre de la Ville, où là, il y avait des sorties scolaires organisées sur YouTube. Et là, du coup, il y avait un jeu de reconnaissance entre lycéens qui disaient, je ne sais pas, moi, bagnolet dans la place, enfin, tout content de se reconnaître. Il y avait une vie communautaire qui, parfois, était très indifférente à ce qui se jouait sur l'écran, parfois au contraire qui le commentait sur le mode un peu du chahut, volontiers, enfin avec la liberté de ton que s'autorise parfois des lycéens commentant un spectacle. Et j'ai trouvé ça très intéressant à regarder, à comparer, à confronter aussi à des formes de chahut ou de discussion, de sociabilité qui se mettent en jeu à côté pendant la représentation. Enfin voilà, je vais entendre Elisabeth sur ces deux points.
Oui, merci beaucoup pour ces remarques. Alors, je me suis fait un petit peu les mêmes remarques, je dois dire. D'abord, pour ce qui est de la performance live, c'est vrai que ça a été en fait extrêmement peu utilisé et que souvent, il y a eu plutôt des effets de faux live. Par exemple, la Comédie française annonçait très précisément qu'à partir de telle heure, il y allait y avoir la diffusion de tel spectacle. Il y a eu quelques expériences de spectacle là, plus dans d'autres domaines, par exemple dans la danse, mais où c'était un peu curieux parce que le sentiment de la salle vide était très sensible et très présent dans la rediffusion et créait presque une espèce de malaise à la captation. Donc, bon, cet effet de live, globalement, il a été très, très présent pour ce que j'ai pu observer dans le théâtre. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'espace des commentaires, moi, j'ai trouvé absolument passionnant ce qui s'est passé durant ces diffusions parce que c'était une occasion en or pour ceux qui étudient, comme moi, la réception théâtrale, d'avoir accès à chaud, en quelque sorte, au sentiment des spectateurs. Mais ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que comme beaucoup de théâtres ont ensuite supprimé les captations en ligne, eh bien, tout cet espace de commentaires a disparu et je me suis mordu les doigts de ne pas avoir pris la peine de saisir tous ces commentaires et de le garder ensuite comme un matériau à exploiter pour analyser tout ce que vous dites, enfin, cette espèce de mélange des publics, des ressentis, du public lettré, du public plus jeune. Alors, ces choses-là, par exemple, elles continuent à être disponibles et à apparaître, mais toujours pour le théâtre de boulevard, c'est-à-dire pour des spectacles qui continuent à être toujours présents, diffusés en intégrale, et où on voit toute la communauté des amateurs de boulevard s'extasier. Mais malheureusement, le spectacle non boulevardier n'a ouvert une fenêtre qu'assez temporaire sur ces réactions du public.
Oui, moi, je voulais simplement intervenir sur le phénomène du coût et de la façon dont on pouvait gérer ça. C'est vrai que nous, on intervient toujours dans une totale gratuité puisque nous sommes achetés comme une représentation par les... ou le service culturel d'une université, ou par le service culturel des villes, ou par les médiathèques. Et je pense que cet aspect de la gratuité, si on veut aller vers des publics qui ne sont pas habitués à aller au théâtre, encore moins sur Internet, c'est relativement fondamental. Parce que si on veut vendre directement les billets, de toute façon, dès qu'il y a quatre comédiens, c'est absolument impossible. Donc il faut que ce soit comme une représentation vendue, et puis on paye nos comédiens normalement. Et après, aux structures de voir l'intérêt qu'elles ont, mais encore une fois, si on considère ce qu'elles dépensent en médiation dite culturelle, je pense, enfin, je n'ai rien contre les relations publiques, mais je pense que si on met des artistes à la place des relations publiques, il y a beaucoup d'argent qui se dégagerait pour des troupes permanentes, plutôt que d'avoir des flopées de relations publiques, notamment sur les grosses institutions. Et donc, voilà, par conséquent, je pense qu'au contraire, cette notion de gratuité, ce qui était la même en théâtre d'appartement, qui est la même dans les parapluies, est fondamentale pour refaire ce chemin-là de réappropriation de l'outil culturel, bon, quand c'est possible. Enfin, nous, c'est vrai que ça ne passe que par... que par la gratuité et pas du tout par... C'est un peu la différence entre théâtre d'appartement et théâtre de salon. Le théâtre de salon fait payer les gens, le théâtre d'appartement, je parlais tout à l'heure, voilà. Et pour les chats, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que quand on les voit apparaître, c'est une façon qu'ont les gens, justement, de faire une sorte de... comment dire, de bascule entre ce qu'ils ont l'habitude de vivre dans la télé, où ils commentent en direct, en disant « Oh là là, t'as vu la gueule qu'il a », etc. Et on le voit dans les chats, hein, parce que alors, c'est très difficile quand on joue, on voit tout d'un coup, oh, bah, disons que celle-là, elle n'est pas arrangée. Bon, c'est compliqué parce qu'on est dans le personnage. Des fois, on se dit, ah, oh, bah super. Mais c'est vrai que c'est important, parce que je pense que c'est une façon pour eux de basculer de l'écran du quatrième mur au fait que là, bah, y a un écran, mais il n'y a pas de quatrième mur, puisque il y a un quatrième mur, mais il n'y a pas, le mur de verre dont on croit qu'il existe au théâtre, enfin, dont on fait semblant de croire qu'il existe.
Oui, moi j'avais une réflexion comme ça à partager. C'est vrai que pendant le confinement de 2020, ça a tellement été extraordinaire, vraiment extraordinaire, où on est enfermé pendant 2 mois et que tout ce qu'on a comme fenêtre, c'est notre ordinateur. À partir de là, le parcours de spectateurs pour les salles, les artistes, etc., il est quelque part facilité par le fait qu'on était en permanence avec ce besoin de se connecter via le numérique pour continuer à avoir une vie sociale. Et du coup, la question de l'après, je ne sais pas comment vous... Là, on est quand même à pratiquement 2 ans de cette expérience-là. comment les salles, notamment, parce que, enfin, en tout cas, en France, c'est quand même beaucoup les salles qui sont maîtres d'une certaine diffusion, continuent ou pas, s'interrogent ou pas sur la nécessité, la mise en œuvre de moyens concrets, financiers, parce que au-delà du, enfin, des initiatives, il y en a eu auparavant, mais c'est comme si là, le contexte épidémique donnait en fait le cadre pour qu'il puisse y avoir une réception massive, entre guillemets, du point de vue des spectateurs. Et du coup, est-ce qu'il faut attendre la prochaine pandémie pour que...
Si je peux me permettre, je voudrais faire un commentaire à ce que tu viens de dire. Et après, du coup, je peux enchaîner avec ce que j'avais en tête avant. Je pense qu'on se trompe si on imagine que le même public qui va au théâtre vivant, il va toujours, tout le temps venir à ce type de théâtre-là. Je pense qu'à la fin, ça va devenir des objets culturels différents et divers. Comme ça l'est tout, enfin le nom de théâtre, mais enfin, ça sert aussi à discuter, et que ça retrouvera son propre public avec ses propres habitudes et d'autres choses. Après, sur la question de si les institutions ils vont continuer à soutenir ça, bon, je pense qu'ils l'ont soutenu relativement, c'est-à-dire la plupart ils sont joués au coup sûr. Donc, filmant ces pièces et les mettant en streaming sur YouTube, comme c'était les exemples qui étaient évoqués par Elisabeth. D'autres, ils ont vraiment pris des risques, mais sur des compagnies qu'ils connaissaient déjà et que du coup, ils avaient une démarche déjà soit dans ce sens-là, soit des gens qui étaient un peu de la famille, ils les ont fait confiance. Enfin, et il y a eu très peu de prix de risque sur des nouveaux projets, des nouvelles choses sorties de nulle part et qui expérimentent avec ça. Donc là, je suis moins convaincue de que les institutions, ils y aillent rebondir là-dessus, sauf si y a une nouvelle pandémie, comme tu dis. Et du coup, ça va forcément, je pense, amener à que s'il y a des gens qui ont trouvé des façons intéressantes de faire des choses différentes, théâtre ou X, j'en sais rien, et qui veulent continuer à le faire, eux-mêmes, ils vont trouver ces façons de subventionner ça. Et ce qui est déjà le cas de tous ces types de plateformes, c'est-à-dire YouTube a des systèmes de rémunération pour les gens qui font des contenus là-dedans. Enfin, il y a YouTube proprement parlant, mais eux aussi, ils ont trouvé des moyens de le faire avec des Patreons, de Ko-fi, des choses comme ça. Donc, il y a toujours des alternatives que... Ça passe par une certaine gratuité en même temps, mais ce qui est la même chose dans les spectacles vivants, il y a un moment où on travaille tous au début un peu gratuitement, et au bout d'un moment, quand tu as déjà une socle de public qui te suit, tu peux commencer à faire comprendre à ce public qu'il faut qu'il paye, qui sert un peu l'État où Marie, je pense qu'elle se retrouve en fait. Je ne sais pas comment elle est sa démarche historique de compagnie, mais en tout cas, elle a réussi à être dans cette étape où elle peut demander directement faire une billetterie sur ces spectacles-là. Du coup, j'enchaîne sur YouTube. Vous en parlez de cette question des commentaires à côté. En fait, YouTube, c'est pas forcément, à la base, c'est pas une plateforme de streaming. En fait, il est pas censé faire du direct. C'est quelque chose qu'ils ont mis en place récemment. Il y a des plateformes qui sont beaucoup plus mieux pour ça, donc Twitch notamment. Et je pense pas qu'ils travaillent là-dessus. YouTube, ça fonctionne vraiment comme un truc de. C'est de l'image fixe, c'est comme une télé. Mais en revanche, là où il y a une source de vivante qui est très puissante, c'est justement dans cette chat qui existe et dans cet échange. Et là, pour le coup, on est vraiment dans comment le public interagit avec un objet culturel. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Là, il y a quelque chose à faire parce que suivre un événement qui est en différé, c'est-à-dire que c'est pas en live, proprement parlant, mais la première fois qu'il a lieu, c'est en direct. C'est impressionnant de voir toute une communauté de gens qui se réunissent devant un écran pour voir ça et pour pouvoir commenter. Et je trouve qu'à ce moment-là, l'endroit de la performance, ça se déplace vers toute cette conversation qui est en train de se créer avec ce public-là. Et c'est très intéressant. En tout cas, c'est des choses qui font réfléchir. Et voilà, oui, voilà, je pense que j'ai bouclé la boucle avec.
Je voulais juste, déjà par rapport aux commentaires et à la réflexion d'Armel Talbot sur les commentaires qu'on n'a pas pu, la capture d'écran qu'on n'a pas faite, etc. C'est marrant parce que ça me fait penser à, il y a eu un colloque avec la CIDMAS sur justement la question du numérique, théâtre, numérique, etc. Et donc, il y a des gens qui se plaignaient de la multiplication des sources à analyser parce que il y a eu une pléthore de partages via le numérique. Ils n'ont pas arrêté de faire des copies d'écran. Ils n'ont pas arrêté de faire des copies d'échanges de commentaires, etc. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données ? Donc ça, c'était un autre problème. Donc voilà, je voulais juste signaler ça. Et ça, Armel, je pourrais vous envoyer le lien de ce colloque. Je l'ai retrouvé là. Et sinon, je voulais rebondir sur donc ces interventions qui étaient vraiment passionnantes. Et notamment l'idée qui avait déjà été évoquée par l'idée d'effet de réel qu'avait apporté apporté par Roland Barthes et repris par Marion Boudier juste avant, et de la mettre en lien avec Ervina Kotoloshi qui parlait le sentiment de coprésence. Et puis il y a ces faux lives aussi, et puis il y a ces trucs pour faire sentir qu'il y a une fausse interactivité dont on a déjà parlé. Et il y a, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de la mimésis ou de l'ordre d'un subterfuge autour de cette interactivité à travers le numérique. Et notamment d'une question éthique, il y a des enjeux. Et là, je vois Marie Ayotte qui a abordé cette idée de l'éthique aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Parce que c'est l'épice en même temps, ça met des épices. Ça serait dommage si parfois la technologie, elle nous empêche de mettre en place l'interactivité qu'on voudrait. Donc, on fait semblant d'être en interactivité pour permettre aux gens d'avoir un plaisir que sinon, ils n'auraient pas. Mais du coup, c'est pour de faux. Et je trouve ça intéressant dans le sens où le théâtre, c'est fait pour être pour de faux. Mais cette fausse interactivité, elle peut aussi poser un problème éthique que posait peut-être le théâtre au tout début, du faire semblant.
Sauf que là, il faudrait 6 mois. Il faut qu'on se réunisse pendant 6 mois pour répondre à la question, Julien.
Oui, et qu'est-ce que... Pardon, hein, mais fausse interactivité, parce que moi, du coup, j'ai l'impression qu'on a évoqué plusieurs projets qui, justement, travaillaient la question de l'interactivité sans trop tricher, pour le coup, justement, avec ce que disait Eliane dans les différents spectacles.
Il y avait cette fausse interactivité avec l'écriture ou les formes d'écriture où on s'attend à ce qu'il y ait telle ou telle réaction et donc on fait semblant d'improviser mais en prenant quelque chose, un bout d'écriture qu'on a déjà prévu. Ou alors, il y a cette idée de baron dans les jeux de commentaires pour envoyer des commentaires pendant une représentation en ligne afin de donner des billes aux interprètes qui sont en train de jouer, parce que si ce type de commentaire n'arrive pas, des spectacles comme Jeanne d'Arc de Marion Sieffert, à un moment, il y a eu cette question-là. Quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont complices et qui envoient les messages ou pas, aussi pour contrer le troll, les trolls qui prennent en otage une représentation en s'amusant. Quand j'ai vu Jeanne d'Arc de Marion Sieffert dans ma cuisine, il y avait une bande de trolls qui faisait une discussion à part en disant tartiflette partie chez moi ce soir qui vient, voilà. Et ça avait rien à voir avec la choucroute, si je peux me permettre ce jeu de mots.
Ouais, mais je pense que ça c'est évolu. Enfin, je veux dire, c'est deux choses différentes. Une démarche qui effectivement cherche que cette participation avec les publics construit l'ensemble de la pièce et que du coup le public il soit le 80%. Et une autre, c'est le fait de faire une écriture qui est dirigée. Donc, ce que tu veux voir, c'est si tu peux arriver à amener les publics où tu veux. Pour moi, c'est pas. Enfin, ça me pose pas de problème éthique, mais parce que je vois pas quelles étaient les problématiques dans les premiers théâtres avant, mais je pense que c'est les deux formats, et donc je pense qu'effectivement Jeanne d'Arc qui utilise ça, et je trouve que c'est très intéressant, parce que et ce que tu fais là, c'est rendre artificiel davantage l'artifice. Enfin, c'est une mise en abîme qui, du coup, y est intéressant, je trouve. Mais effectivement, c'est dans cette cas de figure où on comprend tout comme de la fiction et de l'artificiosité. Et donc, t'attends juste que les gens ils puissent être un peu sensibles à ça, ou pas du tout. Les deux options, ils sont valables. Mais t'essayes pas non plus de leur dire que tout ce qu'ils viennent de vivre, c'est vrai 100%. J'ai l'impression.
On a le même problème quand on joue en extérieur. Hein. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas plus d'interaction avec des troublions que quand on joue dans les cours d'immeuble. Quand on a joué dans un cours d'immeuble de HLM, notre spectacle, au moment de l'été particulier, on a eu quelqu'un qui. On avait des gens qui étaient là tous les soirs qui applaudissaient, puis on en a eu un qui a dit mais j'en ai marre, c'est tous les soirs la même chose. Ben oui, évidemment, c'est tous les soirs le même spectacle. Bon, voilà, et c'était pendant la représentation. Donc, oui, ben voilà, quoi. Ça fait partie de la règle du jeu. C'est sûr que c'est beaucoup moins confortable que d'être dans une salle noire avec des gens qui tapent sur les élèves quand ils bougent.
Non, mais la question éthique, elle est sûre, pardon Nathalie, la question éthique, elle est sûre quand il y a tout un marketing autour du temps partagé de représentation qui dit vous êtes acteur et actrice de la pièce, vous allez pouvoir diriger, vous allez pouvoir, et que finalement, ce n'est pas forcément ça qui se passe parce que derrière, de manière non transparente, tout est déjà écrit et que c'est juste une illusion d'interactivité, mais que ce n'est pas pris en compte. Ce qui est amené par les spectateurs et les spectatrices, entre guillemets, là, ça pose question quand même. Il y a tromperie sur la marchandise. Et au tout début, mais ça, c'est autre chose, mais les acteurs et les actrices étaient très mal vus parce qu'ils simulaient des sentiments qu'ils n'avaient pas. Enfin, il y a tout un historique de ça, du théâtre qui posait des problèmes moraux. Alors, l'éthique, la morale, c'est pas pareil, mais on va pas...
En tout cas, cette question de interactivité et narrativité, c'est une espèce de duo qui se retrouve même dans les jeux vidéo. En gros, il y a toujours comme si à un moment donné, il fallait faire un choix où ta balance, elle va plutôt aller d'un côté où tu veux raconter une histoire, ou alors tu veux plus laisser en fait une expérience dans laquelle le joueur ou le spectateur va pouvoir explorer. Et du coup, je suis pas experte là-dedans, mais je pense que même dans les jeux vidéo, il y a une notion d'auteur derrière, et que du coup, on est dans un monde qui est conçu et créé et écrit par un tiers. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on est plus malin finalement pour laisser une illusion de choix à chaque instant.
Mais je dirais qu'il y a un moyen de faire les deux à la fois. Il y a un moyen de contrôler une œuvre, un peu comme de la dramathérapie. Il y a un moyen de mettre un cadre précis, de créer des personnages, de penser à une dramaturgie qui évolue avec le spectateur sans que éthiquement on fake ou on fait semblant de leur participation. C'est juste que c'est une participation cadrée dans certains endroits précis, mais leur participation est réelle, n'est pas contrôlée. C'est sûr que l'éthique ici est très, très large, il va de chacun en chacun, mais je crois qu'exclusivement, il y a un n'égale pas nécessairement pas l'autre.
Je voulais juste rebondir aussi rapidement, parce que je comprends très bien la question, effectivement, c'est ce qui me... Il y a une part de manipulation ou de guidage tellement extrême dans beaucoup de dispositifs participatifs que je suis souvent gênée aussi, l'impression d'accomplir un programme qui est prévu plus ou moins strictement. Mais justement, en fait, les dispositifs que j'ai présentés, enfin, j'espérais qu'il y ait cette part de liberté qui transparaisse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment à chaque fois la possibilité de participer ou non, sous un pseudo ou non, de participer en premier lieu à un débat, enfin dans deux des dispositifs. Quand c'est le spectateur qui est invité à parler de chez lui, etc., j'ai entendu d'autres exemples où il y avait eu des réticences, où la personne a refusé de le faire et ça allait très bien aussi. L'improvisation était manifeste et bien sûr qu'il doit y avoir des ficelles, hein. Mais il n'y avait pas justement de forçage de l'interaction, en fait, dans ces différents dispositifs. Et au contraire, ça me semblait éviter beaucoup de pièges. Là où il y avait le plus de réticence de ma part, mais j'ai été voir aussi dans les chats et les réactions qu'on peut rassembler sur Internet, c'était vis-à-vis de ce jeu, le Game Theater, parce qu'effectivement, là, c'est comme dans un jeu d'ordinateur, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus guidé, on a des objectifs qui sont pratiquement prévus à l'avance, on ne peut pas tellement éviter un certain parcours de recherche. Mais bon, le protocole était très clair, donc en fait, on le savait dès le début, enfin, que ce serait, ça aurait cette forme-là. Donc, à partir du moment où c'est vraiment affiché, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Enfin bon, et puis en fait, il y a une grande part de spontanéité dans les commentaires, encore une fois, que livrent les participants. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dire « Ah ouais, dis donc, qu'est-ce que tu as été rapide pour trouver ça ?» etc. Donc, il y a très vite des dialogues spontanés qui se greffent sur la structure ou le scénario de base.
Et, excusez-moi, pour rebondir là-dessus aussi, moi, j'aimerais bien parler de degrés différents d'interactivité. C'est vrai, en fait, qu'on a parfois l'impression que la participation est orchestrée, encadrée, manipulée, etc. Mais il y a des spectacles où il y a une dimension politique derrière pour parler, en fait, de toute notre attention en ligne qui, d'une certaine façon, est orchestrée, encadrée, manipulé, même si on ne le veut ou pas, par les algorithmes. Donc, il y a des artistes qui travaillent aussi sur notre attention, sur l'économie de l'attention, dont nous faisons tous objet sur les réseaux sociaux, en ligne, etc., où tout notre fil d'actualité dépend de ce que nous partageons, de ce que les autres likent, etc. J'étais en train de parler avec les étudiants et j'étais assez étonnée de savoir que parfois les étudiants laissent confient leur téléphone portable à quelqu'un d'autre s'ils partent en vacances et n'ont pas de Wi-Fi parce que s'ils ne partagent pas de contenu, si leur contenu n'est pas liké, etc., ils peuvent perdre leur visibilité sur le net et leur, je sais pas, leur vie sur le numérique. Donc, je pense que parfois les artistes nous posent des questions sur ce que Julien venait de dire sur l'éthique ou sur l'orchestration de notre participation.
Moi aussi, je voulais rapidement, parce que là, il est tard, mais rebondir sur cette fausse interactivité que soulignait Julien dans les dispositifs. De ce que je comprends, alors, il serait une fausse interactivité dans la mesure où cette interactivité répondrait à la spécificité du noyant et pas la dramaturgie de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on travaille avec le logiciel qui demande l'interactivité, alors il faut l'utiliser, il faut s'en servir. Hein. Et alors, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il c'est effectivement utile de la convier ou alors c'est une interactivité qui répond à des besoins effectivement dramaturgiques. Alors, c'est là peut-être qu'il se pose le problème d'une fausse, une vraie interactivité et du coup aussi d'un respect du public, du spectateur. Et là, c'est vraiment une question éthique. Et bon, moi, j'aurais aussi d'autres éléments à soulever par rapport à l'éthique dans l'usage des moyens, dans l'interaction des moyens électroniques, Internet et tout ça. Ça relève, par exemple, du choix qui est demandé aux spectateurs dans la co-création de pièces par rapport à la tu me vois, hein, on choisit le salon auquel participer, ou alors le choix d'un vote pour participer à la création de, de la pièce, ça me pose problème. C'est vraiment une question qui m'éteraude. Peut-être que c'est une question que ce n'est pas la peine de poser. Oh, bon, je la pose ce soir, mais on peut aussi l'aborder demain, parce que là, on est vraiment en retard. Mais il y a une question antique de toute façon dans l'usage de ces outils-là.
Oui, alors, c'est vrai que là, il arrive 18h17 et je pense que ce que tu viens de dire, Giuseppe, aussi, ça peut aussi à la fois accompagner la fin de cette session. Voilà, on se retrouve demain.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonsoir et bon.
À demain.
À demain. Merci, à demain.
Merci. Au revoir. Au revoir.